Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Souvenez-vous, le premier confinement nous a poussés à ranger, à faire du tri et à dénicher des pépites que nous avons eu envie de vendre sur le marché de l'occasion. La seconde main, une tendance de fond amplifiée par la crise sanitaire. Des raisons économiques, environnementales ont dopé ce marché. En 2020, ce secteur a généré en France plus de 7,5 milliards de chiffre d'affaires. Un marché boosté également par le plaisir de tomber sur la bonne affaire, d'acquérir des vêtements vintage, de dénicher des objets qui racontent une histoire, qui ont acquis une patine. Nous verrons ce matin comment faire les bons choix, les erreurs à éviter, quelles sont les limites de la seconde main qui peut parfois pousser à la surconsommation. Et vous, racontez-nous votre goût pour la seconde main, la brocante, les occasions, au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
58% des Français disent avoir acheté au moins un objet de seconde main dans les 12 derniers mois. C'est trois fois plus qu'il y a 15 ans. Les achats d'occasion explosent depuis la crise de 2008. Par nécessité économique, par conscience écologique, ce nouveau mode de consommation a aussi été facilité par le développement des sites comme eBay, Le Bon Coin ou Vinted. Mais est-ce une mode ou un vrai changement de société ?
Extrait d'envoyé spécial et les chiffres cités datent d'avant la crise sanitaire. Bonjour Rémi Houdguiry.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et directeur général adjoint du cabinet Sociovision. Vous évoquerez une étude très instructive sur notre goût pour la seconde main. Bonjour Anne-Catherine Vervaarde.
Bonjour Ali.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes créatrice du site La Petite Brocante et acheteuse bien connue des téléspectateurs de France 2 dans l'émission Affaires conclues. Bonjour Céline Séris.
Bonjour Ali.
Vous avez créé le blog Is No Good qui se bat pour une mode plus éthique et responsable et vous avez publié Mon Dressing Heureux, le guide complet pour une éthique, pour une mode éthique et bienveillante. Bonjour Charlotte Roudeau, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et vous avez publié dans le mensuel Oui Demain un très bon papier consacré à la seconde main. Alors Charlotte Roudeau, le marché de la seconde main dans notre pays, c'est un marché très lucratif, hein?
Oui, tout à fait. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est vraiment le côté sujet de société, parce qu'en définitive, effectivement, avec l'économie fragilisée telle qu'on la connaît aujourd'hui et aussi une prise de conscience écologique, on a considéré que il s'agissait plus d'une partie de la population qui s'intéressait à ce qu'on a appelé le vintage en bon français, c'est-à-dire à l'âme des vêtements, mais il y avait sans doute un choix idéologique, voire je dirais du bon sens, à aller vers des objets qui soient reconditionnés ou réutilisés. Parce que ça reste quand même la meilleure option écologique que de réutiliser et ne pas avoir à produire à nouveau pour utiliser.
Et le marché de la seconde main pourrait même dépasser celui de la première main en 2030. D'ici la fin de la décennie, si Poutine ne nous réduit pas en cendres, la fripe pèsera plus lourd que la fast fashion, c'est-à-dire la mode rapide hein, incarnée par des grandes enseignes comme Primark, Zara ou H&M.
Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense que H&M et Zara, enfin, toutes ces enseignes de fast fashion, ça a été le symbole d'une génération qui a énormément consommé, ce qu'on appelle la fringue jetable. On l'utilise une fois, deux fois, trois fois et puis après, voilà, on s'en débarrasse. Si demain, donc en 2030, effectivement, la seconde main devient notre premier choix, ce qui est le titre, en fait, de notre enquête, et ben effectivement, ça raconte quelque chose de notre génération qui s'engage à être vigilant, à essayer d'utiliser au maximum, en fait, que ce soit un habit ou un ordinateur ou un objet de décoration pour éviter d'avoir à produire et à jeter.
Céline Séris, sur cette tendance de fond.
Oui, bah, je crois que cette tendance de fond, elle est très intéressante parce qu'en effet, quand on regarde les chiffres, on voit que le marché de la seconde main, il explose depuis quelques années. Donc, on a tendance, et moi la première, à se dire, bon, ben, ça y est, notre génération, repense, en fait, sa façon de consommer et essaye de consommer la mode de façon plus responsable, d'essayer, en tout cas, de réfléchir ses achats. Mais en fait, quand on observe vraiment ce qui se passe aujourd'hui, Vinted, par exemple, ou Le Bon Coin, enfin, comment aujourd'hui, en fait, ces plateformes ne font que revendre systématiquement des vêtements jetables, c'est-à-dire ils sont envahis de vêtements de fast fashion, des vêtements de Chine, etc. Donc, de la marque Chine, pas fabriquée en Chine, c'est pas là le problème. Et en fait, quand on observe le truc, moi j'ai l'impression que aujourd'hui, revendre sur le marché de seconde main, ça fait entièrement partie du processus d'achat. C'est-à-dire, ça va faciliter en fait finalement le consommateur à acheter encore plus. C'est un petit peu le vice, j'ai l'impression. Enfin, c'est ce que j'observe. C'est-à-dire que bon, bah ce jean il coûte déjà pas très cher chez Zara, mais en plus on sait que bah s'il nous plaît pas, on va pouvoir le revendre dans un mois sur Vinted et puis il sera racheté. Et ça fait un petit peu partie, j'ai l'impression, d'un cercle vicieux qui va alimenter finalement le commerce du marché de première main. Donc voilà, c'est un petit peu la constatation que je fais. Et en général, voilà, quand je parle de seconde main, moi j'adore la seconde main, parce qu'il y a ce côté émotionnel, parce qu'il y a ce côté mode circulaire, etc. Mais il faut pas oublier que fondamentalement, il faut quand même repenser notre façon de consommer, parce que sinon, on tombe un peu dans le piège.
Anne-Catherine Vervard, sur cette seconde main, sur cet essor de la seconde main.
Écoutez, moi je constate ça aussi au niveau à la petite échelle de mon site, c'est-à-dire qu'au moment du confinement, on a eu toute une flopée de nouveaux consommateurs qui sont arrivés en ligne, que ce soit chez les maisons de vente aux enchères, que ce soit sur les sites internet qui ont eu cette conscience écologique au moment du confinement et qui se sont dit j'ai besoin de ne plus participer à cette surconsommation. Et j'ai vu des nouveaux consommateurs arriver en effet en me disant c'est la première fois que je commande sur internet, mais j'ai envie plutôt d'acheter de la seconde main en décoration, un objet qui ne pollue plus. Et effectivement, on a constaté cet essor, nous marchant sur internet, à ce moment-là.
Rémi Oudguiri, vendre et acheter d'occasion, c'est donc une tendance de fond. Votre cabinet Sociovision a réalisé une étude qui montre qu'en matière de mode de vie et de consommation, c'est l'évolution la plus marquante de la dernière décennie et sans doute des années 2020.
Oui, je pense, parce que c'est vraiment... Tout a été dit en partie, c'est que de nouveaux publics sont apparus en 10 ans on est passé d'un tiers à 60 et plus et
63%
quelques, 63% de gens qui vendent ou achètent, et ça c'est un phénomène marquant. Alors au-delà de la mode, il faut bien avoir en tête c'est pas que la mode évidemment qui est touchée, c'est la première catégorie qui s'échange sont les meubles, enfin qui se vendent sont les meubles, il y a l'automobile également. On vend plus et on achète plus d'automobiles d'occasion que de voitures neuves. Il y a aussi les livres qui circulent beaucoup, il y a les jouets. Autrement dit, tout est en train de passer à l'occasion d'une certaine manière. Et je crois qu'il y a une chose intéressante qui a été dite et que je confirme parce que l'étude le montre, c'est que il faut pas. Bien sûr qu'il y a il y a l'aspect écologique, mais il y a aussi un consumérisme, c'est-à-dire que nous ce qu'on voit, c'est que beaucoup de gens qui passent à l'occasion le font aussi pour simplement consommer davantage et de façon plus simple
et moins cher.
Voilà. Donc il y a toute une série d'avantages. Mais c'est vraiment, je pense, un des phénomènes les plus marquants des 10 dernières années.
Quel est le profil des acheteurs? Il s'agit d'un public plutôt féminin et plutôt urbain?
Au public féminin. Alors, on l'a dit, tous les milieux désormais sont concernés. Donc en réalité, quand vous prenez tous ceux qui achètent à un moment donné de l'année de l'occasion, c'est tout le monde. En revanche, si vous zoomez sur ceux qui le font régulièrement, au moins une à deux fois par mois, là vous avez plus de femmes, deux tiers de femmes, un tiers d'hommes. Et vous avez, alors c'est intéressant, un profil qui est il y a des familles, beaucoup de familles. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles qui ont des contraintes de pouvoir d'achat, qui vont passer à l'occasion pour acheter des jouets, par exemple, ou certains produits. Et puis vous avez aussi, alors c'est intéressant, on a une image de l'urbain qui va chiner, etc. Ceci existe bien évidemment, mais en réalité quand on regarde, il y a aussi dans les petites villes et les villes moyennes beaucoup de gens qui achètent ou qui vendent d'occasion. Et puis vous avez aussi dans les milieux ruraux, beaucoup, c'est même surreprésenté. Ce qui veut bien dire que c'est un phénomène de masse et qui concerne pas simplement une petite partie de la population.
Et il y a donc quatre types de populations qui se détachent.
Oui, alors quand on regarde en détail cette population, alors il y a ceux, et c'est quand même les plus nombreux, il faut le rappeler, qui recherchent l'économie, qui recherchent les bons plans, qui simplement optimisent leur budget, et c'est la raison pour laquelle, donc il y a beaucoup de gens qui ont des situations financières instables ou fragiles. Après, vous avez ceux qui sont un public beaucoup plus attachés à trouver l'objet particulier, singulier
atypique.
Exclusif, atypique, qui va exprimer une part de leur personnalité ou révéler une part de leur personnalité. Donc ça, c'est des gens qui sont attachés à l'esthétique, à la beauté des objets. Après, vous avez ceux, alors ça concerne notamment tous ceux qui le font in vivo, c'est-à-dire dans, physiquement, parce que là, les brocantes, il y en a énormément, les vide-greniers. Et là, ils recherchent, au-delà de chercher la bonne occasion, le bel objet, c'est aussi simplement la rencontre. Parce qu'on discute beaucoup sur les brocantes, on discute et on échange.
Vous confirmez, Catherine?
Oui, il y a la rencontre et il y a aussi l'adrénaline de la chasse au trésor. Parce que partir en brocante, partir sur un vide-grenier, c'est vraiment un plaisir enfantin de la chasse au trésor, d'aller chercher la pépite ou l'objet qui va déclencher chez nous une émotion inattendue.
Comment il est né chez vous cet attrait pour la chasse au trésor de la brocante?
Écoutez, je pense que ça fait partie de la personnalité. Et après, j'ai été également un petit peu entraînée en étant petite, comme beaucoup, par ma grand-mère, qui était une fan de salons de collectionneurs, d'antiquaires, de brocantes. Et voilà. Et après, c'est le plaisir enfantin ou des personnalités un peu plus créatives aussi, parfois.
Et puis le dernier type, ce sont alors ceux qui font ça dans une démarche d'engagement. Et là, il y a clairement l'idée que consommer du neuf, c'est une hérésie aujourd'hui, et ça sera encore plus une hérésie demain. Il faut absolument arrêter ce cycle de la surconsommation. Donc c'est des consommateurs engagés. Alors c'est pas la majorité, mais effectivement, il y en a de plus en plus, notamment chez les jeunes. Et c'est intéressant de voir émerger. Je pense que dans les 10 prochaines années, ce type-là qui est encore émergent, minoritaire, va être de plus en plus présent. Et son obsession, c'est le gaspillage. C'est arrêtons de gaspiller, arrêtons de comme ça multiplier les choses inutiles. Donc il y a vraiment une démarche engagée également qui se retrouve.
Céline Seyrisse, vous confirmez que ce qui peut pousser à vendre ou à acheter de la seconde main, c'est par rejet du système marchand classique?
Ben oui, moi c'est quelque chose que je sens vraiment, c'est je sens en fait que de plus en plus on se pose la question et on réalise à quel point l'industrie de la mode ces 20 dernières années c'est un petit peu fichu de nous, en nous affichant beaucoup de paillettes, beaucoup de jolies choses et puis par derrière, en utilisant des chaînes de production à l'autre bout du monde avec des travailleurs qui travaillent dans des conditions un petit peu catastrophiques et de plus en plus en fait la parole se libère et je crois que le consommateur est de plus en plus conscient de ce qui est en train de se passer et donc a de moins en moins envie en fait de participer à tout ça et de soutenir des marques de fast fashion et à l'occasion on l'a déjà abordé, ça a tellement de vertus et notamment d'un point de vue économique on peut finalement retrouver des prix de fast fashion et en seconde main, donc ça permet en fait au petit budget finalement de continuer à s'habiller tout en évitant de consommer de nouvelles ressources, de participer à des chaînes de production sordides, enfin voilà, je pense vraiment, enfin, je sens réellement cet engagement de plus en plus.
C'est vrai que bon, il y a quand même aussi l'impact sur le prix. Ça, c'est des chaussures qui valent peut-être 75 € et je les ai payées 10 €. Peut-être même pas celles-ci.
Vous, en théorie, vous auriez les moyens d'acheter tout ça neuf.
Moi, aujourd'hui, même si je pourrais mettre 75 € dans une paire de chaussures qui va durer 2-3 mois, je trouve que ça a quelque chose de fou. Je préfère utiliser cet argent pour des moments avec mes enfants. On va faire des restaurants. On a réorienté notre budget comme ça, en fait.
La famille a divisé son budget vêtements par 4. Son budget meubles et jouets par 10.
Extrait d'envoyé spécial le 27 février dernier. Alors la professeure de marketing Dominique Roux affirmait dans Que choisir que, je la cite, contrairement aux idées reçues, les foyers modestes ne sont pas toujours les gros acheteurs d'occasion. Ils le font pour des articles très ciblés qu'ils ne peuvent s'acheter neufs. Je cite toujours Dominique Roux. En réalité, le gros du marché de la seconde main est alimenté par des gens sans problème financier. Pour certains, la dimension économique est intéressante pour allouer les économies réalisées à d'autres fins. Rémi Houdguiri.
Oui, alors c'est en partie vrai. Il y a beaucoup de foyers qui n'ont pas de problème et qui se livrent à l'occasion. Ça, c'est une évidence. Mais il y a quand même, il faut jamais oublier une partie de la population qui est vraiment fragilisée. Et pas seulement d'ailleurs les milieux populaires. C'est plus les classes moyennes, on va dire, en difficulté depuis une dizaine d'années maintenant, qui ont de vrais problèmes de pouvoir d'achat, qui se tournent vers l'occasion, faute de mieux, parce qu'il faut équiper les familles. C'est pour ça que dans le profil que nous on a étudié, on a été frappé, par exemple, de l'importance des familles monoparentale dans la pratique de l'occasion. Et on voit bien que là, c'est probablement moins des raisons de plaisir ou d'hédonisme, mais plus des raisons de contraintes financières.
Et nous accueillons Virginie. Bienvenue Virginie.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Lyon. Alors vous êtes une adepte de la seconde main, hein, en famille.
Exactement.
En plus.
En famille, tout à fait. Et entre collègues aussi. Ouais.
Qu'est-ce que vous aimez dans la seconde main? Comment vous pratiquez? Tiens, racontez-nous un petit peu.
Je pratique sur plusieurs plans, en fait, là, notamment avec les collègues. Je travaille dans un hôpital, donc il y a plusieurs services. On se croise pas forcément, mais on a toutes des enfants de tous les âges. Mmh. Et on a commencé par faire du troc avec une autre collègue, puis une autre. Et finalement, on a monté un petit groupe sur Facebook pour faire nos échanges. Donc, on met en photo et puis après, on troque. Donc, on se rencontre et soit on échange contre un autre objet, donc un livre contre un vêtement ou contre un service, ou contre des œufs parce qu'on a des collègues qui ont des poules. Et sinon, à petit prix, Donc, ça nous permet de nous rencontrer. Et puis au fil du temps, on connaît qui a des enfants de l'âge du dessus ou l'âge du dessous, et on s'appelle directement pour faire nos échanges. Donc ça, c'est un premier point. Et puis notamment pour Noël, ça fait 3-4 ans que pour mes enfants, j'achète de la seconde main parce que c'est des jouets qui après ils se lassent assez vite. Au bout d'un an, ils ont grandi et ça leur correspond plus, ou des vélos notamment. Et du coup, j'en ai un peu discuté en famille. Donc, les enfants ont compris cette démarche et ils sont pas déçus de pas avoir la boîte qui va avec le Playmobil, mais plutôt un petit tissu qui entoure assez joli et qui retrouveront l'année d'après. Et ma mère, du coup, j'ai commencé à lui en parler. Elle était pas du tout motivée par l'idée, parce qu'elle voulait pour ses petits-enfants un cadeau dans une boîte et tout ça. Et finalement, elle s'est mise au pli. Puis l'année dernière, d'elle-même, elle a cherché de la seconde main pour le Noël des enfants.
Rémi Houdguéry, sur le témoignage de Virginie.
Oui, ça confirme totalement ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, c'est très familial. Il y a le côté convivial, social. Alors, je parlais tout à l'heure des lieux physiques, mais on voit bien que ça passe par les réseaux sociaux également. Donc on est vraiment sur l'illustration parfaite du fait que l'occasion aujourd'hui, c'est faire société. C'est-à-dire qu'il y a une économie et au-delà une société entre particuliers. Et c'est vrai qu'on en parlait beaucoup il y a une dizaine d'années. Et là, on voit que ça prend une ampleur incroyable. C'est pour ça que je pense que la prochaine décennie verra encore plus de... C'est pas une tendance, c'est pas une mode, ça c'est une évidence. C'est vraiment une tendance de fond.
Anne-Catherine Verbarne.
Non, moi j'ai constaté également, depuis le confinement, on a le développement des plateformes locales, de consommer local, pas seulement en produits de première nécessité ou en produits de petits producteurs locaux, mais le seconde main local se développe via des marketplaces qui privilégient ça. Et on n'a pas eu que des consommateurs, des acheteurs qui sont arrivés pendant le confinement, on a eu aussi des vendeurs. Les gens se sont mis à vendre, ils avaient un peu de temps, et on a ce développement du réseau local qui est très important.
Préciser ce que sont les marketplaces.
Alors les marketplaces, ce sont les plateformes de vente, on en a cité quelques-unes, ça peut être Facebook, ça peut être Selancy, ça peut être Le Bon Coin, qui développe cette tendance du local et qui met les gens en relation entre eux. Et il faut aller très très vite parce que c'est chez le voisin, c'est à côté, il faut être le premier sur la bonne affaire, c'est ça.
Exactement. Alors il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il émerge également. Alors on l'a pas identifié quantitativement, mais qualitativement, on voit qu'émerge aussi un nouveau type des gens qui achètent pour revendre immédiatement. Enfin, qui sont un peu dans la spéculation. Donc il y a c'est vrai, ça c'est un qui repère les bonnes affaires et puis qui vont en faire un vrai business. En fait.
Merci beaucoup Virginie de nous avoir appelé. Dans quelques instants, des conseils pour acheter au mieux des occasions, de la seconde main, de la brocante. En attendant, à 10h24, on écoute Gilbert Bécaud, l'Orange.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
Non.
Tu as volé, a volé, a volé, a volé, a volé, a volé l'orange. Tu as volé, a volé, a volé l'orange du marchand.
C'est vous, c'est pas moi, j'ai pas volé l'orange, j'ai trop peur des voleurs, j'ai pas pris l'orange du marchand.
Ça ne peut être que toi, tu es méchant, il est.
Il y avait comme du sang sur tes doigts quand l'orange coulait. Non, 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 non.
Mais c'est bien toi qui l'as volé avec tes mains.
C'est fou,
oui, c'est bien toi qui l'a volé, y'a quelqu'un qui t'a
frappé.
Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tout le temps les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu.
Appelez, 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 Laurent.
Mais non, mais non, non, non.
Appelez, 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 Laurent, je dis marchand.
C'est pas moi, j'ai pas volé, pas volé, Laurent, j'ai pas volé, j'ai pas volé, Laurent, je dis marchand.
Y'a fait longtemps qu'on te guettait avec tes dents de loup.
Y'a fait longtemps qu'on te guettait, t'auras la corde au cou. C'est fou, non?
Pour toi, ce jour, c'est le dernier, tu es qu'un sale voleur.
J'ai rien fait, non?
Ça va, tu n'es qu'un étranger et tu portes malheur.
Vous vous trompez, je courais dans la montagne, regardant tous les toits, les étoiles dans les cieux. Vous vous trompez, je cherchais dans la montagne l'oiseau bleu. Pas volé, 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 Laurent.
Il a volé Laurent.
J'ai pas volé, j'ai pas volé, pas volé, pas volé, Laurent. J'ai dit dans le champ, dans le moment, j'ai pas volé.
Gilbert Bécaud, Laurent, j'ai appelé beaucoup à notre invitée Anne-Catherine Vervard, hein, qui danse en studio.
500 balles, ça ?
Oui.
250 balles.
Grand bien vous fasse.
750.
300 balles.
830.
400.
950.
Ali Rebéi.
500.
500 ou
500 ? Allez, fais-tu l'affaire, hein ? Qu'est-ce qu'on dit ?
Bon, on dit que t'es un blaireau, c'est prix de départ.
Sur France Inter.
Seconde main, brocante, occasion, comment faire les bons choix, c'est notre thème ce matin. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Racontez-nous votre plaisir à chiner, à débusquer les bonnes affaires. Marie qui nous écrit, je vous écoute expliquer que la seconde main est un phénomène générationnel. J'ai 64 ans, je ne m'habille plus qu'en seconde main depuis des années dans des dépôts aux ventes de qualité. Mon appartement est meublé de seconde main. Ne pensez pas que l'aspect écologique et économique est réservé à la génération des milléniums. Rémi Houdguiri, je rappelle que vous êtes sociologue.
Oui, bien sûr, elle a tout à fait raison. Hein. C'est une tendance de fond, comme on l'a dit, et ça concerne vraiment tout le monde. Et nous, ce qui nous a marqué ces dernières années, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'offrent des cadeaux de Noël qui sont exclusivement des produits d'occasion. Avec cette idée de voilà, bah c'est et c'est parfois d'ailleurs mieux accueilli parce qu'il y a le charme de l'objet qui a déjà servi et donc il y a une forme de vertu parce qu'il a traversé le temps.
Céline Séris. Il n'y a pas que les milléniums et les jeunes qui sont attirés par la seconde main ou les occasions, hein.
Mais oui, bien sûr, elle a raison. Moi, c'est vrai que je pars, enfin, les personnes qui me suivent sont des personnes qui ont entre 30 et 40 ans, on va dire. Donc, c'est pour ça que il me semble que c'est moi, hein, qui ai fait l'erreur de dire notre génération. Mais bien sûr, elle a raison. C'est un phénomène de fond. Bien sûr qu'on peut avoir 64 ans et avoir des considérations, repenser, en fait, sa façon de consommer, évidemment, bien sûr.
Bienvenue, Guilhem.
Oui, bonjour.
Bonjour, quel est votre témoignage, Guilhem ? Vous qui êtes né dans les années 60.
Oui, voilà, je suis né dans les années 60, tout à fait. Et donc, je reviens effectivement sur ce que va dire votre invité. Nous, notre génération, on était assez dans la contre-culture et ceux des jeunes, parce que j'appartiens à la génération, j'ai punk et post-punk. Donc, dès les années, dès les années 80, on voulait pas être habillé comme tout le monde. Donc, il y avait déjà un recul culturel, etc. Puis ça a muté en prise de conscience, j'irais plus écolo. Mais moi, enfin, originaire de Montpellier 7, etc., étaient déjà des villes où il y avait une prise de conscience dans les années 80 de ça. Il y avait beaucoup de, je dirais, de puces à l'époque, qui étaient fréquentées par le milieu, allez, on va dire, arty, culturel, etc. Même pas sans savoir que, bon, à 7, il y a le MIAM, hein, le Musée d'Art des Arts Modestes, hein, avec Hervé Di Rosa, etc. Et donc, c'était déjà très, très prégnant. Donc, c'était déjà Emmaüs, les brocantes, les meubles industriels, etc. Une espèce de rejet du système, effectivement, dans une communauté qu'on peut qualifier de punk ou post-punk, lié contribuer à la contre-culture. On va dire ça comme ça. Et ça nous a suivis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est beaucoup plus écolo, bien évidemment. Mais je veux dire, je parle pas de manière générale, mais on n'appartient pas à une génération, on va changer d'iPhone tous les 6 mois, on va changer de voiture tous les 3 mois, etc. Ça nous est totalement étranger. Totalement.
Et vous continuez à chiner, à brocanter, à aller aux puces?
Avec beaucoup de plaisir, avec énormément de plaisir. D'ailleurs, chez moi, vraiment, c'est une espèce de mini-musée. Hein. C'est-à-dire, j'ai des meubles des années 60, 70, et ce, bien avant, et je ne suis pas méchant avec ce qu'on peut qualifier de bobos, bien avant les meubles industriels à la mode chez les bobos, que ce soit à Paris ou à Lyon ou même ici à Montpellier. Non, c'était vraiment dès la récupération dans les poubelles, ça continue, fréquentation de brocante, effectivement, je continue de chiner énormément. Il y a toute une espèce de bric-à-brac chez moi. Ça va de pistons de moto sur des étagères en passant par des chaussures américaines en exposition des années 50, enfin c'est vraiment une espèce de... Voilà.
Ça me donne envie de venir chez vous, Guilhem, voir tous vos trésors. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Charlotte Roudeau, journaliste à Oui Demain, vous vouliez réagir?
Oui, parce que je trouve que ce qui est intéressant, au-delà de la motivation première, qu'elle soit économique ou finalement écologique, c'est ce que ça apporte au niveau de l'évolution des mentalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, quand on achète un vêtement, par exemple, on se pose la question de ce qu'il pourrait devenir dans un deuxième temps. Et ça, c'est quelque chose de profondément bénéfique, parce que effectivement, à condition de ne pas se mettre à consommer à outrance en décompensant, mais si on reste dans une consommation telle qu'elle est habituellement, aujourd'hui, on perçoit quand même un objet de premier achat comme un objet qui peut avoir plusieurs vies et plusieurs utilisateurs. Et ça, c'est intéressant. Ça change un petit peu, ça nous fait sortir de la société Kleenex dans laquelle on était, et ça nous permet de rentrer véritablement dans une économie circulaire. Et donc, c'est un mouvement culturel intéressant.
Simon nous écrit ceci, quand il n'y aura plus de première main, d'où viendra la seconde main? Charlotte Roudeau, c'est une question qu'on peut se poser.
Je pense qu'on a de la chance parce qu'on a beaucoup encore de première main, il y a encore beaucoup de production, donc on peut tourner longtemps avec nos vieilleries ou nos rébus.
Pour faire de bonnes affaires, il faut venir dès l'aube.
On se lève tôt le matin pour venir chiner et trouver nos trésors.
D'ailleurs, il n'est que 9h et Cathy a déjà vendu une bonne partie de son étalage.
Vaisselle, habits, électroménager, etc. C'est le début, c'est déjà bien, bien dynamique. Donc je pense que si la pluie ne s'en mêle pas, ça va bien se passer.
Chaque année, cette brocante réunit entre 600 et 700 exposants. Objectif pour eux, débarrasser la maison, se faire un peu d'argent et surtout, passer un bon moment.
Je vends des bricoles pour me débarrasser, mais pour la bonne humeur aussi, pour les gens, pour parler à tout le monde. Il y a des bouquins, il y a des poupées, il y a des jouets, des enfants dont ils ne se servent plus. Enfin, tout ça pour dire de passer une bonne journée.
Mais il faut aussi avoir un sens aigu de la négociation.
C'est très rude. Ah ouais, les gens négocient, mais c'est la folie. Des fois, on est même un peu énervé parce qu'on achète des choses à un certain prix et ils veulent ça pour rien, mais bon, c'est le jeu, hein.
Une passion de plus en plus populaire en France. Si en 1980 on en recensait 1500 par an, aujourd'hui ce sont près de 50 000 brocantes qui sont organisées chaque année.
Extrait du JT de CNews le 5 mai 2019. Alors avec les beaux jours qui arrivent, nous allons retrouver le chemin des brocantes. Anne-Catherine Vervard, créatrice de la Petite Brocante sur Internet. J'aimerais que vous nous donniez quelques conseils pour bien chiner. Alors d'abord, la Chine appartient à ceux qui se lèvent très tôt. Paris. Très très tôt,
mais
c'est vrai
pas seulement, mais pas seulement, parce qu'en fait, on peut avoir trois moments dans une brocante. Le premier moment, c'est effectivement très très tôt, donc à 5h du matin, quand les gens sont en train de déballer, de s'installer, que tout le monde n'est pas encore arrivé, et qu'il faut y aller à la lampe torche, et puis être là presque à aider à déballer les cartons. Là, on va retrouver plutôt une foule de marchands professionnels.
C'est votre cas.
Oui. Oui, oui, mais je fais pas que ça. Et de chineurs assez éclairés, donc qui sont les premiers qui sont là à la recherche de la bonne affaire, et c'est plutôt spéculatif et plutôt financier. Voilà, donc c'est plutôt un marché de pros. Il y a un deuxième moment qui est important, c'est le moment du midi, du déjeuner. Et là, je reviens faire un tour, parce que les marchands ont à nouveau sorti de la marchandise, il y a beaucoup moins de monde, on voit mieux les objets, on peut se laisser aller à mieux voir les objets, et puis à acheter quelque chose qui sera plus de l'ordre émotionnel, un objet vraiment qui déclenche un coup de cœur chez nous. Et le troisième moment important à ne pas oublier, c'est le moment du remballage.
Oui.
Quand les gens n'ont pas vendu, qu'il reste de la marchandise et qu'on est attiré par quelque chose, c'est le moment de négocier le meilleur prix, en effet. En termes de négociation, Ali, je pense que...
Oui, vous voyez dans mes yeux, j'aimerais savoir comment on négocie. Comment vous faites, vous, quand vous avez un coup de cœur pour un objet?
Ouais.
Voilà, donnez-nous des conseils pour acheter aussi bien que vous.
Voilà. Alors,
parce que sur votre site, il y a vraiment des belles pépites. Comment vous les dénichez, comment vous les négociez?
Alors, en termes de négociation, il faut toujours partir d'un prix plus bas que celui auquel qu'on est prêt à payer, de manière à pouvoir retrouver le vendeur. Et alors là, il n'y a pas de règle, malheureusement. C'est comme dans la vie, c'est une relation interpersonnelle. Il faut savoir lire les signaux pour ne pas non plus vexer, énerver le vendeur qui refusera au final de vous le vendre. Même si le prix, au final, est correct, si vous l'avez vexé, c'est très mal parti. Donc, il faut juste être dans une relation normale et puis essayer de trouver le juste milieu. Mais commencez plus bas et puis, avec un peu de chance, un peu de sourire et un petit peu d'amabilité, vous arriverez à faire une bonne affaire.
Et à quoi faut-il être particulièrement attentif?
Alors, il y a plusieurs choses. Sur une brocante physique, quand on a l'objet entre les mains, c'est évidemment, c'est du bon sens, mais de le regarder sous toutes les coutures. Quand on a, quand on est en face d'un meuble, par exemple, ne pas hésiter, et ça on le fait pas suffisamment, mais à retourner le meuble, à vérifier comment il est construit, s'il n'y a pas de défaut, de manque de stabilité, s'il n'y a pas d'insectes xylophages qui ont commencé à manger le meuble. Donc bien regarder quand il s'agit de petits objets, de céramique, de verre, vérifier toujours, moi je dis, c'est le col, le cul et les bras, c'est-à-dire les endroits qui peuvent avoir des égrenures, des éclats et qui vont affecter la valeur de l'objet. Donc on regarde le dessus d'un vase par exemple, le dessous et puis les poignets qui sont souvent des parties un peu sensibles pour les objets. Ça c'est en brocante physique. Sur internet, on a de la chance parce que donc la Chine sur Internet se développe énormément, il n'y a pas que la Chine en brocante. Sur Internet, il faut être très vigilant à la description des articles, bien regarder toutes les photos qui font partie de la description. Et puis, si on a le moindre doute, s'il nous manque une information pour faire un choix, ne pas hésiter à toujours poser des questions aux vendeurs, que ce soit des particuliers ou des vendeurs expérimentés, pour bien s'assurer de ce que l'on achète.
Et ce que vous dites recoupe des conseils que j'ai retrouvés dans Que choisir quand on achète en ligne, donc se renseigner sur le vendeur, bien lire son annonce, dialoguer avant tout paiement, vérifier le produit avant de le payer, car vous ne bénéficierez pas ni de la garantie légale de conformité, ni du droit de rétractation. Il ne faut pas hésiter, vous l'avez dit, à demander des informations détaillées au vendeur. Et puis, il vaut mieux privilégier les sites qui proposent des paiements sécurisés en ligne. Là, l'argent n'est versé au vendeur que quand le bien est livré et conforme à la commande.
Oui, je rajouterai également ce à quoi il faut faire attention, notamment sur les plateformes de vente ou les grands sites, c'est de vérifier où sont localisés les vendeurs. Dans quel pays sont-ils? On peut avoir parfois de mauvaises surprises parce qu'on n'avait pas envisagé des frais de livraison aussi importants parce que le vendeur est situé quelque part dans un pays un petit peu lointain, même en Europe, même au Royaume-Uni, maintenant avec le Brexit. Vérifier où il est basé, vérifier s'il y a des taxes supplémentaires à l'importation, ça arrive aussi, ça peut faire partie des mauvaises surprises. Vérifier les commissions que le site va collecter sur votre achat et mettez l'objet dans votre panier et vérifiez bien le montant total, ne pas être juste attiré par un prix de l'objet. Il faut vérifier tout ça et comparer toujours sur Internet, on a le temps. Comparez bien les différents sites, les différents vendeurs.
Alors Charlotte Roudeau, vous êtes donc journaliste à Oui Demain et vous avez repéré des sites pour acheter de la seconde main les yeux fermés. Alors dans le domaine de la maison par exemple, j'ai repéré quelques sites. Envie.org par exemple, c'est un réseau né en 1984 à une époque où la seconde main n'était pas tendance. Envie.org, expliquez-nous un peu ce site.
Oui, alors ce qui est assez intéressant et caractéristique sur certains sites, c'est que au-delà en fait de reprendre des objets qui ont déjà eu une première utilité, souvent il s'agit de les réparer et de les reproposer du coup à l'achat. Et derrière ça, dans cette chaîne de réparation, il y a souvent, ce sont des entreprises qui utilisent des gens qui sont en réinsertion. Donc en fait, il y a aussi tout un modèle solidaire intéressant. Et c'est ce qu'on a eu envie de faire en fait dans ce guide de la seconde main, c'était de concentrer un petit peu toutes les solutions pour acheter effectivement déjà des objets qui ont eu une première vie, mais aussi qui permettent d'alimenter une chaîne de une chaîne de réparation qui a une dimension sociale derrière.
Envie.org, par exemple, que vous citez dans votre papier.
Bien sûr.
il répare en fait. Alors du coup, on a dessus à la fois des objets, essentiellement des appareils d'électroménager, qui sont récupérés en fait, soit donnés, soit rachetés, et en fait réparés et proposés. En fait, c'est un peu le reconditionnement du grille-pain, on va dire. Mmh. Et effectivement, ça permet souvent de prolonger la vie d'un objet 10 ans de plus en moyenne.
Alors on peut citer aussi, hein, dans votre enquête, Rebelote, c'est ça, le site Rebelote.
Oui, tout à fait.
.com.
Exactement. Là, il y a un mélange, en fait, ça regroupe et notamment des dépôts de vente également, et des recycleries. Donc les recycleries, c'est des endroits où les gens peuvent amener en fait des objets qu'ils n'utilisent plus, des vêtements ou des objets de l'ordinaire, et qui sont en fait également reconditionnés pour être proposés. C'est vrai que le digital a permis, on en parlait tout à l'heure rapidement et j'ai pas pu rebondir, ça a mis sur un pied d'égalité en fait le territoire français, en ce sens que même les gens qui vivent dans des endroits plus reculés, qui ne sont pas à côté de Lille, en fait, où il y a effectivement un vrai marché de la seconde main avec des brocantes et des fineurs professionnels, d'être aussi concernés, de pouvoir bénéficier en fait de ces réseaux de récupération en fait d'objets utilisés, réparés et revendus. Ça a profondément changé le mouvement, ça lui a donné une toute autre ampleur et ça a permis à chacun aujourd'hui de pouvoir accéder dans tous les domaines à de la deuxième main.
Alors, on peut également citer dans votre dossier le site selency.fr. Alors, c'est une excellente brocante, pas toujours donnée. J'ai acheté en brocante, dans une brocante physique en Seine-et-Marne, une bibliothèque multicolore des années 60, qui s'appelle le modèle Alta de Fontenot, pour 100 euros, et qui était vendue sur Selency, qui est actuellement vendue à 370 euros, même s'il est bien sûr possible de négocier le prix avec le vendeur. Mais parfois, entre les brocantes en ligne et les brocantes physiques, il y a une grande différence, hein, Charlotte Roudeau.
Oui, il faut toujours faire attention, c'est sûr, au prix. Après, c'est vrai que Selency, ça regroupe beaucoup beaucoup de brocanteurs et ça a permis, en tout cas pour ceux qui s'y connaissaient très peu au départ, de pouvoir accès tout de suite, à une sélection d'objets, souvent d'ailleurs griffés de designers et du vintage un petit peu valorisé, très facilement. Donc effectivement, la contrepartie, c'est que c'est un petit peu plus cher que si on va fouiller en fait directement chez des brocanteurs individuels et qu'on trouve la pépite.
Alors Céline Séris, beaucoup de questions qui vont dans le même sens ce matin. Acheter d'occasion, est-ce vraiment un geste écologique? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ne contribue pas à l'achat compulsif, à l'accumulation d'objets dont on n'a pas forcément l'utilité, même acheter de seconde main? On peut être pris dans un engrenage compulsif. C'est une série.
Oui, c'est un petit peu ce par quoi j'ai commencé. Enfin, parce que en fait, c'est vraiment un comportement que je remarque que aujourd'hui, on inscrit un petit peu le fait de revendre ses achats compulsifs de seconde main. C'est un petit peu, ça fait partie en fait du processus d'achat presque aujourd'hui. Mais en fait, il faut simplement déjà se poser et essayer de repenser sa façon de consommer avant de consommer, que ce soit neuf ou d'occasion. Je pense que en fait, c'est surtout là qu'il faut repenser la chose. C'est avant d'acheter, essayer de repenser sa consommation pour que sa consommation elle corresponde à nos besoins, qu'elle corresponde à qui on est, qu'elle corresponde à des achats qu'on va conserver longtemps. Et ensuite se pose alors la question, est-ce que je vais acheter quelque chose de neuf ou est-ce que j'achète quelque chose de seconde main? Et à partir du moment en fait où on choisit d'acheter de seconde main, on choisit d'acheter quelque chose qui existe déjà, donc qui n'a pas nécessité de nouvelles ressources pour être produit. On choisit de privilégier des achats qui sont faits entre particuliers, donc de privilégier finalement l'émotionnel, la rencontre, le partage, et voir le local, parce qu'on en a parlé, il y a de plus en plus de réseaux de vente locaux de seconde main qui naissent. Donc c'est très vertueux en fait la seconde main, mais uniquement si ça s'inscrit dans un processus de repenser en fait globalement notre façon de consommer.
Rémi Houdguéry.
Oui, tout à fait. Il y a une fonction déculpabilisante de l'achat d'occasion en fait. Et il y a beaucoup de gens qu'on interroge qui nous disent cela, c'est que finalement, puisque c'est d'occasion, je peux y aller. Donc c'est un peu l'effet pervers de l'achat d'occasion. Donc effectivement, l'enjeu, c'est de penser sa consommation. Je veux dire, beaucoup de gens font de l'économie circulaire sans le savoir.
Delphine nous écrit ceci. Je fréquente beaucoup les boutiques de seconde main, souvent gérées par des associations type Emmaüs, pour connaître des gens qui travaillent dans ce milieu depuis quelques années. Eh bien, il devient de plus en plus difficile de faire vivre ces boutiques, car les vêtements de qualité sont souvent revendus et non plus donnés. Et Rose nous écrit, j'ai toujours donné mes vêtements qui ne me plaisent plus à Emmaüs ou à d'autres associations similaires. Quid de la solidarité? Je trouve dommage cette marchandisation et même cette spéculation. Mais tiens, justement, nous accueillons Maud Sarda. Bonjour Maud Sarda, je suis ravi de vous accueillir.
Bonjour.
Vous êtes la cofondatrice et la directrice de Label Emmaüs. Emmaüs est évidemment un acteur historique fondamental de l'économie circulaire. Racontez-nous la philosophie de Label Emmaüs, Maud Sarda.
Oui, alors Emmaüs, ça fait 70 ans qu'on fait de l'économie circulaire, bien avant que ce terme existe. Et Label Emmaüs, c'est plus récent, ça n'a que 5 ans. Mmh. Et c'est le prolongement en ligne des bric-à-brac qu'on connaît bien. Donc c'est une marketplace, une place de marché, sur laquelle on va trouver 1 700 000 produits à peu près d'occasion qui sont référencés par des compagnons, des compagnes, des personnes qui sont accueillies dans les centres Emmaüs, hein, mais pas que. Au total, on a 170 structures de l'économie sociale et solidaire qui alimentent cette marketplace. Donc vous en avez cité quelques-uns d'ailleurs, hein, vous avez cité Envie. Vous avez cité des ressourceries. Mmh. Voilà, typiquement, ce sont des partenaires de cette marketplace qui alimentent aux côtés des Emmaüs chaque jour en produits nouveaux d'occasion qui sont issus des dons que nous font les particuliers.
Sur Label Emmaüs, on peut trouver des vendeurs hein, comme la Croix-Rouge ou Bibliothèques sans frontières, cher à Augustin Trapenard. N'importe qui peut vendre sur la plateforme Label Emmaüs ?
Uniquement les structures de l'économie sociale et solidaire. Des structures qui vont œuvrer sans but lucratif ou en tout cas avec une activité économique au service d'un projet d'insertion. Des personnes qui sont travailleurs handicapés, des personnes qui sont éloignées de l'emploi, bénéficiaires du RSA, au chômage depuis longtemps. Voilà, différentes difficultés d'accès à l'emploi. Et ce sont ces personnes vraiment qui font toute la chaîne du commerce. Ce sont elles qui vont choisir les produits, qui vont shooter les produits, qui vont rédiger les annonces, gérer des commandes dans un back-office informatique, qui vont codiser, remettre au transporteur les colis. Voilà. Et elles apprennent tout un tas de métiers grâce à cette activité.
Et Maud Sarda, que pensez-vous des géants de la mode et du commerce en ligne qui se lancent dans les produits d'occasion, dans la seconde main? Quel est votre regard?
Alors, on peut pas nier qu'il y a de l'inquiétude, évidemment, dans notre secteur, puisque pour nous, la seconde main, c'est un outil pour aider des personnes. Bien sûr, c'est un support d'activité uniquement pour aider des personnes. Et puis, par défaut, maintenant, c'est écologique et on s'en félicite. Et on a une action sur le climat qui est énorme chez Emmaüs, vous vous en doutez. Ces géants, alors on peut prendre ça comme une bonne nouvelle, qui s'intéresse à la seconde main, quand Zalando ouvre un corner seconde main sur son site, quand des grandes marques proposent de ramener des produits d'occasion contre des bons d'achat, mais contre des bons d'achat de neuf. Donc finalement, vous l'avez aussi un petit peu évoqué dans l'émission, si c'est pour de nouveau que la seconde main soit un prétexte, un relais de croissance pour un marché de première main, du neuf, on ne change pas grand-chose finalement, et on ne va pas préserver non plus notre environnement de cette façon. Et il y a un effet très pervers, vous l'avez évoqué, c'est que le don à des structures comme Emmaüs, la Croix-Rouge et autres baissent. C'est un fait, depuis des années ça baisse, en particulier en termes de qualité.
Maud Sarda, vous avez choisi de ne pas céder à la livraison express. Hein.
Oui, c'est un refus. Alors on livre en 3-4 jours et a priori nos clients sont satisfaits. On a 60 000 clients et il n'y a que 3% des colis qui sont remboursés. qui font l'objet d'une rétractation, donc c'est vraiment faible en e-commerce. Pas besoin de livrer en quelques heures, ça c'est une catastrophe écologique. Donc pas besoin de s'aligner sur les géants du e-commerce qui ont fait n'importe quoi en termes de pratiques écologiques. Zalando, que c'était juste avant, fait de la seconde main et en même temps ils ont 50% de taux de retour. En Allemagne, voilà. C'est essayer d'abord et puis acheter après.
Et vous utilisez, pour terminer, majoritairement des emballages de récupération, 80% environ, c'est ça ?
Oui, 80% des vendeurs n'utilisent que de la récupération. Alors parfois, ça donne lieu à des emballages insolites, mais ça fait partie du charme.
Vous aussi, Anne-Catherine Vervaard, vous utilisez des emballages de récupération, on
peut
le dire.
Tout à fait insolite. Oui, oui, absolument. Oui, oui, c'est bah oui, on ne va pas produire du carton quand on peut en récupérer. Donc les commerçants sont solidaires et il y a moyen de voilà de faire tout ça très bien en étant bien emballé, mais en recyclant le carton également.
Rémi Houdguiry ?
Oui, il y a vraiment dans ce boom de l'occasion, une sensibilité qui ne cesse de se développer. Dans les témoignages, il y avait aussi, à un moment donné, on a parlé de retape. Hein, donc on recycle, on réutilise, on retape. Enfin, c'est des comportements intéressants parce que ils sont de plus en plus diffusés et ils nous ramènent un peu en arrière d'une certaine manière. C'est avant la société de consommation telle qu'on la connaît depuis les années 60. Donc il y a aussi une sorte de rétro-futur qui se met en place. C'est-à-dire que plus on avance vers le futur et plus on retrouve des recettes du passé. Et avec, évidemment, aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, l'enjeu de faire durer. Hein. Et je pense que c'est vrai que, moi je vois le verre à moitié plein, parce qu'il y a effectivement tous ces effets pervers, on donne moins parce qu'on préfère vendre, on consomme plus parce que voilà, on est déculpabilisé, mais bon an mal an, quand même, les choses progressent et effectivement, il y a une mentalité du consommateur moyen qui est quand même en train de changer. Donc, il faut encore être patient et ça va se poursuivre.
Merci beaucoup, Maude Sarda, directrice et cofondatrice du site Label Emmaüs. Dans un instant, des idées de sites pour acheter des vêtements de seconde main de façon vertueuse. En attendant, on écoute Arlo Parks qui interprète Eugene.
Thank you.
Parks interprétait Eugène.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
Seconde main, brocante, occasion, comment faire les bons choix, c'est notre thème ce matin. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Alors en 2021, une personne sur quatre a acheté au moins une fripe. Charlotte Roudeau, dans le mensuel Oui Demain, vous nous conseillez des sites de vêtements de seconde main plutôt vertueux. Vous en avez quelques-uns là à partager?
Oui, je trouve qu'il y a des initiatives qu'on a trouvées assez belles, comme Chaussettes Orphelines, ah oui, par exemple. Allô?
Oui, 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 on vous écoute.
Où la créatrice, en fait, a décidé de réutiliser tout simplement les chaussettes dépareillées, celles qui sont abîmées, les cols enfilés. Elle les détisse et en fait, elle les retisse pour en faire des robes, des pantalons, des pulls recyclés. Donc ça, c'est une assez jolie initiative. Elle fait tout ça dans son atelier à Paris, dans le 18e arrondissement. Il y a un autre site qui s'appelle Ethic to End, qui, lui, choisit en fait de faire de la seconde main très curatée, c'est-à-dire qu'elle choisit des marques qui sont vertueuses, on en parlait tout à l'heure, effectivement, ça peut être intéressant d'aller jusqu'au bout de la démarche et de se dire que les vêtements qui ont plusieurs vies sont des vêtements qui ont été pensés déjà d'une manière totalement vertueuse. Après, des exemples, il y en a plein, hein. Il y a aussi ce petit site La Vie est Belle qu'on a trouvé, où en fait le principe c'est de réutiliser en fait des pneus de vélo et de les transformer en fait en ceinture. En fait, on a l'impression qu'il y a une grande créativité qui est en train aujourd'hui de se déployer grâce au digital. On en parlait parce qu'effectivement, ça permet de toucher très vite une large audience et de voir en fait dans nos rébus d'envisager tous les possibles de ce qui pourrait devenir. Donc en fait, effectivement, se dire qu'un pneu finira en ceinture, c'est pas forcément le chemin le plus rapide.
Ça s'appelle La Vie est Belle, B-E-L-T. Hein, La Vie est Belle.
Exactement.
Rémi Oudguiri, un mot de conclusion. On le voit bien, le marché de la seconde main, de l'occasion, transforme en profondeur notre société de consommation. Hein.
Oui, tout à fait. Je pense que l'un des phénomènes les plus marquants, c'est le fait qu'aujourd'hui, chez de plus en plus de gens, quand on va acheter un bien, on se pose d'abord la question de l'occasion avant de penser à la question du neuf. C'est-à-dire qu'on va d'abord vérifier s'il est disponible d'occasion avant éventuellement d'aller l'acheter neuf, et pas pour des raisons économiques. Et ça, je pense que c'est un phénomène vraiment en rupture avec la société de consommation telle qu'on la connaît depuis des décennies, où le culte du nouveau, une nouveauté en chasse l'autre, le changement permanent, tout ça, on est en train de muter. Alors, il y a encore ça, évidemment, aujourd'hui, mais je pense que ça, c'est un des points les plus importants. Et puis, on a beaucoup parlé d'économie circulaire. Je pense que c'est effectivement une des grosses tendances qui est derrière ce marché de l'occasion. Et puis, bon, le digital, on vient d'en parler, et ne jamais oublier quand même, et je pense que c'est important, parce que le marché de l'occasion est à l'image de la société française, il y a aussi une forme de déclassement qu'on peut décrypter dans ce boom de l'occasion. Donc il y a à la fois des nouvelles plutôt réjouissantes, c'est-à-dire qu'on réinvente la consommation, et ça c'est plutôt bien dans le contexte de crise écologique qu'on traverse, mais il y a aussi des mauvaises nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'autre recours que celui de l'occasion pour survivre, ou en tout cas pour se maintenir à flot.
Un mot de conclusion, Céline Séris.
Oui, c'est très intéressant ce sur quoi il vient de terminer, c'est que en effet, en fait, au départ, le marché de l'occasion, enfin, ça s'adresse en fait, à des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, et donc avec justement aussi cet essor de la seconde main, les prix des friperies augmentent aussi. Et ça devient aussi de plus en plus difficile, en fait, pour les petits budgets, finalement, d'acheter des vêtements de seconde main. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut remarquer aussi. Mais moi aussi, je préfère voir le verre à moitié plein. Moi aussi, en fait, je suis pleine d'espoir sur le fait qu'on comprenne tous de plus en plus, en fait, qu'il est intéressant pour personne, finalement, de continuer à acheter du neuf qui a été produit dans de mauvaises conditions. Et que c'est positif avant tout, finalement, pour l'acheteur, puisque comme ce monsieur qui est intervenu tout à l'heure de la période post-punk disait, ça permet en fait de s'exprimer, d'exprimer en fait qui on est et de ne pas suivre une tendance qu'on a imposée pour nous et que les masses vont suivre. C'est finalement acheter de seconde main, c'est aussi acheter pour soi, acheter pour qui on est, et je crois que c'est ça aussi qui est important, c'est retrouver cette liberté, cette individualité que moi je vais parler de la mode, mais voilà.
Merci.
La mode en fait, voilà.
Merci beaucoup, Charlotte Roudeau. On peut lire avec profit votre papier dans le le Oui Demain de ce mois-ci. Merci Rémi Oudguiri du cabinet Sociovision. Merci Anne-Catherine Vervard. On vous retrouve dans Affaires conclues cet après-midi sur France 2. Merci Céline Séris. On peut lire Mon Dressing Heureux, le guide complet pour une mode éthique et bienveillante chez Hachette Pratique. Demain, je vous attends en direct et en public au Salon de l'Agriculture. Comment manger bon, sain, durable et pas cher.